Troisième lettre à son frère. Rome, 19 décembre 1849. Le séjour de Rome continue, mon cher ami, à m'être fort agréable. Il n'est pas de ville au monde où l'on trouve plus de calme, une plus profonde quiétude de toutes nos facultés. Ses palais déserts, ses innombrables églises, ses ruines n'ont rien de bien attrayant pour l'homme du monde qui recherche le mouvement de la vie sociale, le confortable et les plaisirs. Au sortir de la rue Vivienne et du Palais Royal, on doit trouver bien tristes les étroites ruelles du Transtévère ou les galeries désertes du Vatican. Mais que ces lieux, pleins de souvenirs, que cette tristesse de 25 siècles qui pèse sur ces éternelles collines, que ce ciel admirable et les belles montagnes de la Sabine qui forment l'horizon, ont d'attrait pour l'artiste et pour l'homme doué du sentiment des belles choses. Pour trouver Rome belle et agréable, il faut être capable de faire abstraction du présent et de juger les faits en dehors des hommes. La misère de ce peuple est affreuse. La dépravation morale est portée dans ce pays à un point difficile à croire, et ce qu'il y a de plus triste, on n'entrevoit aucune issue, aucune voie de régénération pour l'avenir. Il est certain que depuis des siècles, ce pays est le plus mal gouverné de l'Europe. L'industrie y est vue de mauvais œil. Toutes les sciences usuelles, celles qui servent à former l'ingénieur, le mécanicien, le navigateur, le médecin même, y sont à l'état d'enfance. La terre est possédée tout entière par le clergé et quelques grandes familles papales est livrée à des paysans, espèces de serfs qui la cultivent sans aucun zèle. Ces beaux fruits qu'on achète ici par douzaines pour quelques sous, ces oranges, ces olives, ces raisins admirables sont le produit brut de la nature et croissent en ce pays avec aussi peu de culture que les murs sur nos fossés de Bretagne. Toutes les administrations sont dans un état déplorable. Le vol est à l'ordre du jour et à peine poursuivi. On assure qu'il y a des voleurs patentés et que quelques brigands arrêtés dans les environs d'Albano par un détachement français exhibèrent à l'officier des lettres patentes en bonne et due forme par lesquels ils étaient autorisés à exercer leur profession. De tous les abus de ce pays, les plus criants sont, sans contredit, ceux de la justice. Elle est tout arbitraire. La procédure est secrète, nul code, nulles études de jurisprudence civile, tout s'y fait par argent ou par protection. Les juridictions privilégiées sont en outre fort nombreuses. Le laïc ne peut citer l'ecclésiastique devant le tribunal dont il est lui-même justiciable. Et il est certains crimes dont il n'obtiendra jamais justice, car le tribunal ecclésiastique ne les reconnaîtra jamais. En somme, mon ami, je ne crois pas qu'il y ait de pays en Europe régis par de plus déplorables institutions. Et si quelque part une révolution semble désirable, c'est assurément dans cette malheureuse contrée. Mais, hélas, cette révolution, on est réduit à la redouter comme le dernier fléau. Une révolution n'est profitable à un peuple que quand elle ouvre les voies à une classe d'hommes intelligents, laborieux, actifs, zélés pour l'amélioration sociale. Ces hommes, où les trouvera-t-on dans ce pays? L'éducation de ce peuple est toute à faire. C'est comme un pupille que ses tuteurs auraient tenu dans l'abrutissement pour conserver plus longtemps la gestion de ses biens. Comment ne ferait-il pas des folies le jour où, pour la première fois, on lui fera le don fatal de sa liberté? Je le dis du fond de ma conscience. Je crois que pour le moment présent, ce qu'il y a de plus désirable pour ce pays, c'est encore le gouvernement du pape. Rome n'est rien que par le pape. Le jour où Rome ne serait plus la ville papale, elle ne serait plus qu'une petite ville secondaire et sans importance. On y mourrait à la lettre de faim. La seule industrie des Romains consiste à louer des appartements pour les sous-louer ensuite aux étrangers, qu'ils traitent dans leur famille, genre de vie que plusieurs préfèrent à celui des hôtels garnis. Rome compte chaque hiver 30 ou 40 000 étrangers, et l'argent qu'ils jettent durant ce temps dans la population suffit à la défrayer pour le reste de l'année. Imagine quel désastre ce doit être quand cette unique source de l'alimentation de cette grande cité se trouve tarie. C'est ce qui a eu lieu cet hiver. C'est ce qui aurait lieu si le pape cessait d'être le souverain de cette ville. Les Romains le savent, et quelque antipathie qu'ils aient pour le gouvernement ecclésiastique, Ils le rappellent à grands cris, espérant voir rentrer avec lui l'argent et le pain. Les retards que Pinaud a mis à ce retour l'ont rendu fort impopulaire. Les Romains l'accusent de leur misère. Ajoute à cela les déplorables mesures prises par le gouvernement papal relativement au papier-monnaie de la République. Ce papier était hypothéqué sur les biens du clergé. Il suffisait que le clergé sacrifiât 1/5% de son revenu pour sauver une affreuse banqueroute. Ils ont refusé, et le papier a été frappé d'une dépréciation de 35%. Or, ce papier consistait en assignats de 10, 15, 20 sous et était tombé par conséquent tout entier entre les mains des petits marchands et des pauvres gens. Ça a été une affreuse ruine. Eh bien, le croirais-tu, ce papier est aujourd'hui recherché comme de l'or, car c'est maintenant la Banque romaine, analogue à notre Banque de France, qui est en procès avec le gouvernement et est menacée de voir son privilège s'éteindre au 1er janvier prochain. Quant à l'argent, on n'en voit pas en ce pays. Toutes les pièces frappées à l'effigie de la République ont été démonétisées. Tout ce qui sort de la monnaie est accaparé à l'instant même par un agiotage dont personne ne peut percer le mystère. Et quant à l'ancienne monnaie papale, sa valeur réelle est tellement au-dessous de sa valeur courante que personne n'y a confiance. Juge quelle perturbation cela doit jeter dans les affaires. Pour les comptes les plus simples, pour l'achat d'une paire de souliers ou pour un compte de restaurant, il faut pratiquer les comptes les plus compliqués. Quand vous demandez le prix d'un objet, le marchand vous répond « c'est tant en argent, tant en papier, tant en argent de France ». Quelque chose a ainsi 3 ou 4 prix. Je t'assure, mon cher, que les agents de change font ici de bonnes affaires et que plus d'une fois j'ai désiré voir ton bureau transporté du coin de la Halle au blé au Corso ou à la Piazza d'Ispagne. Le prince Torlonia, le grand banquier de ce pays, possède à l'heure qu'il est la moitié à peu près de la ville de Rome, sans compter d'innombrables villas. Tous les théâtres, le monopole du sel et du tabac qui lui a été vendu, etc. 3 ou 4 palais portent son nom, et il n'est pas d'édifice nouveau qui ne porte sur son fronton, suivant l'usage romain, « Princeps Alexander Torlonia Fecit ». Nous partons jeudi 27 décembre pour Naples, mais avec l'intention bien arrêtée de revenir à Rome. Nous avons peu de choses à faire à Naples, et cette partie de notre voyage est plutôt pour l'agrément que pour la science. Il se peut que nous poussions une pointe jusqu'en Sicile. Les communications de Naples à Palerme et à Messine sont faciles et à bon marché. La longue quarantaine qu'on fait subir à l'entrée des États napolitains à ceux qui débarquent par voie de mer nous force à prendre la voie de terre par Terracine et Capoue. J'écrirai de Naples à la chère Fanny, à qui je pense bien souvent au milieu des enchantements de ce beau voyage. Je m'amuse souvent à rêver qu'un jour, devenus millionnaires, nous visiterons ensemble ces beaux lieux. Et nos petits amis, comment vont-ils? Je ne vois pas de petits poupons dans les bras des belles transtévérines, je ne vois pas de petits romains ou de petites romaines jouer au soleil sous les portiques de Saint-Pierre ou du palais du Quirinal, que je ne pense à eux. Adieu, cher ami, 1000 baisers affectueux. Ernest Renan.